RCF.
Vous écoutez la rediffusion de l'émission Le Temps de le dire. Merci de ne pas appeler le standard.
Bonjour à tous. Régulièrement, le sujet des prisons revient à la une de l'actualité, même si on préférerait ne pas voir ce qui constitue, il faut bien l'avouer, un des points aveugles de notre société. Le délinquant, le criminel, il est préférable de le rejeter hors de notre champ de vision, de l'exclure. Il n'a ce qu'il mérite. Qui n'a jamais pensé cela sur les personnes détenues? Alors, il ne s'agit pas certes d'être dans l'angélisme. Certaines personnes doivent pour un temps être écarté de la société. L'emprisonnement, si ce n'est pas la solution à tout, n'est pas à proscrire en tant que tel. Il n'en reste pas moins que la question des peines alternatives à la détention doivent être davantage pensées pour être mises en place plus efficacement. Et quand la détention s'avère être la seule solution, il faut réfléchir aux conditions dans lesquelles celle-ci est effectuée. Priver quelqu'un de sa liberté ne signifie pas le priver de sa dignité. Des droits existent et doivent être respectés. Sinon, on ne fait que reproduire un cycle infernal de violence qui, s'il n'est pas enrayé, risque de refluer sur l'ensemble de la société.
Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
Antoine Dulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Hier, en présence de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, vous avez présenté un avis sur la réinsertion des personnes détenues. On va en parler, bien sûr, durant une heure dans cette émission. Clotilde Gilbert, bonjour.
Bonjour.
Après avoir été engagée comme aumônier de prison, vous avez créé une association, Wake Up Café, dont l'objectif est de libérer les talents des détenus et les préparer ainsi à un retour dans la vie professionnelle. François Besse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur du pôle enquête de l'Observatoire international des prisons, l'OIP. Les missions de l'OIP sont de plusieurs ordres. Il s'agit de faire connaître les conditions de détention en France, de défendre les droits et la dignité des prisonniers et de contribuer au débat public par un travail rigoureux d'éclairage et d'analyse des politiques pénales et pénitentiaires.
Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
J'aimerais faire, pour commencer, un bref diagnostic sur l'état des prisons en France. On parle souvent de surpopulation carcérale. Quelle est l'ampleur de cette surpopulation, Antoine Dulin ?
Eh ben, elle est massive. Il faut savoir qu'il y a à peu près, en moyenne, dans les établissements pénitentiaires, à peu près 130% de surpopulation. Et elle se traduit, cette surpopulation, par le fait que des personnes détenues peuvent in fine être à plusieurs dans des cellules, mais y compris être à plusieurs dans des cellules avec des matelas au sol, ce qui quand même pose un problème de dignité. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'il y ait des matelas au sol, il y a une loi qui, depuis 1875, depuis 150 ans, demande, y compris pour une dimension de réinsertion, ce dont nous allons parler, que les détenus soient seuls dans... voilà. Et donc on voit bien que là, cet objectif n'est pas réussi. Alors il y a 130% en moyenne, mais il y a des établissements où on est à plus de 200%.
Alors ça concerne surtout, pour
les maisons
préciser,
d'arrêt.
Voilà, les maisons d'arrêt,
voilà, donc,
c'est-à-dire les personnes en attente de jugement ou les personnes emprisonnées pour des courtes peines, c'est ça François Besse ?
Oui, courtes peines jusqu'à 2 ans normalement, quoique certaines personnes passent beaucoup plus de temps quand la procédure de justice dure en maison d'arrêt. Avec une petite, enfin un petit point particulier, les établissements pour peine, donc centres de détention, etc., il y en a dans les Outre-mer et ces centres de détention là sont également surpeuplés. Donc une situation qui est encore plus catastrophique, on va dire, dans les Outre-mer.
Pourtant, le gouvernement annonce souvent la création de nouvelles prisons. Il y a de nouvelles places, entre guillemets, qui sont construites, qui sont faites. Ce n'est pas la solution, Clotilde Gibel. Vous rejoignez sur ce point l'avis du CESE, c'est-à-dire... finalement, on ouvre des prisons, mais elles sont aussitôt remplies. C'est pas forcément
oui,
la solution.
Parce que ce que disait hier Nicole Belloubet, c'est qu'on construit des nouvelles prisons et du coup, on remplit encore plus ces nouvelles prisons, mais pas avec des personnes en les changeant d'établissement, mais en incarcérant davantage, ce qui est quand même problématique.
Et pour cela, finalement, en fait, ce que vous proposez, et vous insistez là-dessus, sur cet avis du CESE, Antoine Dulin, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir davantage, et je le disais en introduction, aux peines alternatives.
Oui, il faut parce que en fait dans l'univers carcéral, on le connaît peu. D'une part, si on parlait de sous, il faut savoir qu'une journée en détention par rapport à une journée dans une peine alternative, c'est du simple double, hein. Une journée à détention aujourd'hui, c'est entre 100 et 140 euros par jour par personne en détention, alors qu'une peine alternative, par exemple comme le bracelet électronique, qui est certes critiqué, on pourra y revenir dans la discussion, c'est 9 euros par jour, ou un système de placement extérieur ou des centres centre de semi-liberté sont entre 35 et 50 euros par jour. Donc là, on voit bien déjà qu'en matière de finances publiques, on pourrait faire des économies. D'autre part, en matière de réinsertion, on voit bien que la question de la surpopulation bloque la possibilité aux détenus de se réinsérer. Et des personnes détenues qu'on a entendues hier ont dit... C'est comme si la prison, elle crée plutôt de la violence, elle recrée de la délinquance plutôt que de nous permettre de s'en sortir et de sortir de cette délinquance. Et donc, lutter contre la surpopulation, c'est effectivement développer des alternatives à la prison. On en connaît, par exemple, les travaux d'intérêt général. Mais il faut savoir, par exemple, pour ces choses qu'on connaît, hein, les TIG, les travaux d'intérêt général qui permettent d'avoir des peines alternatives à la prison, c'est seulement 3% des peines qui sont prononcées aujourd'hui.
Alors,
par les magistrats.
C'est très peu. Pourquoi ? Est-ce que c'est lié finalement, au-delà des efforts, au-delà de la volonté du gouvernement notamment, est-ce que c'est pas lié finalement à l'opinion commune qui, et d'ailleurs le CESE le rappelle, l'opinion en France a majoritairement une conception très punitive du rôle de la prison et souhaite finalement que les personnes soient incarcérées plutôt qu'elles ne fassent des peines alternatives, en fait. Ça, c'est lié quand même à une opinion qui ne change pas.
C'est effectivement lié à l'opinion, mais parce qu'il y a un énorme manque de pédagogie d'une part, et puis il y a une utilisation politique, on va dire, de la peur, en gros. Parce que finalement, l'opinion, qu'est-ce qu'elle demande ? Elle demande plus de sécurité. Et pour apporter plus de sécurité dans la société, il faudrait que y ait moins de récidives, du coup, ça ferait moins de victimes, etc. Et pour qu'il y ait moins de récidives, il faut passer par autre chose que la prison. Le constat, il est fait par tout le monde, hein, que la prison elle-même, elle est plutôt génératrice de récidive que de sécurité.
Mais c'est quand même paradoxal. C'est-à-dire que finalement, la prison n'atteint pas l'objectif qu'elle s'est fixé, c'est-à-dire de réinsérer Clotilde Gilbert.
Oui, en fait, pour moi, le vrai sujet, il n'est pas de désengorger les prisons. Il est de regarder pourquoi il y a tant de récidives en France et comment on peut faire en sorte qu'il y ait moins de récidives. Et comme le disait Antoine, le coût d'incarcération d'une personne à l'année, en fait, grosso modo, c'est quand même 50 000 euros par an par personne incarcérée. Il y a presque 71 000 personnes incarcérées. Il y a des taux de récidive qui sont très, très forts, qui sont de 33% de retour en prison dans l'année qui suit la sortie de prison et presque 60% dans les 5 ans qui suivent une sortie de prison. Donc, c'est un véritable enjeu de société. Donc, un enjeu de société, évidemment, économique, comme on l'a dit, mais c'est aussi un enjeu de société, c'est-à-dire que si on lutte contre la récidive et si on trouve des solutions pour qu'il y ait moins de récidive, on fait en sorte d'avoir une société moins apaisée, plus apaisée, avec moins de délits.
Oui.
Et donc, c'est effectivement la mission que développe Wake Up Café, c'est d'accompagner des personnes qu'on rencontre toutes en détention et qui disent, j'en ai ras-le-bol d'être en prison. Il y en a qui ont fait 36 passages en prison, par exemple, et qui disent, j'ai pris conscience que je veux faire autre chose de ma vie, que j'ai gâché une grande partie de ma vie. Après, il y en a qui peuvent avoir ce chemin-là dès 20 ans, hein, qui ont déjà eu quelques incarcérations avant, mais qui disent tout seul, dehors, c'est super compliqué, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que faut trouver du boulot. Et en fait, quand j'ai le statut prisonnier, en fait, ça se voit au travers de plein de choses. Et du coup, je trouve pas de boulot.
D'où un certain nombre de propositions du CESE. On va y revenir dans un instant. Mais François Besse, vous vouliez prendre la parole.
Pour compléter, juste l'essentiel des personnes qui sont en prison, elles le sont pour des courtes peines. Et quand on parle avec les services d'insertion et de probation, qui ont la charge de préparer la sortie, l'insertion, etc. La plupart nous disent, notamment dans les maisons d'arrêt, je pense à l'Île-de-France, nous expliquent que en dessous de 6 mois, ils n'auront pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire à peine le temps de recevoir éventuellement la personne une fois, mais en tout cas pas du tout de préparer quelque chose. Donc ça veut dire que ces peines courtes, elles sont effectuées sans quasiment de préparation à la sortie ou d'accompagnement dans des démarches qui permettraient qu'une fois dehors, la personne passe à autre chose.
Mais est-ce que le fait que cette personne même ne passe que 2 ou 3 mois dans une prison, est-ce que c'est pas quand même un électrochoc salutaire pour cette personne, Antoine Dulin ?
Au regard de ce que nous avons vu et entendu, je pense que c'est un électrochoc qui est plus négatif qu'autre chose. Toutes les personnes détenues que nous avons rencontrées nous disent qu'ils vivent un choc carcéral, c'est étudié, etc., par des scientifiques. Ce choc carcéral, il est à la fois psychologique, on se retrouve dans un endroit enfermé, etc., mais aussi social, avec une problématique de désocialisation et de déresponsabilisation. Et que je pense que même passer une journée en prison, ou même passer 2-3 mois, n'a pas de sens, parce que aujourd'hui, la prison, elle ne permet pas la dimension de la réinsertion. Donc, c'est pas l'endroit où la personne va prendre conscience du délit. C'est pas, ça peut pas pourrait être un électrochoc, on le pourrait l'imaginer, et j'aurais pu avoir cette croyance-là. Mais on voit bien que cet effet-là ne marche pas. En fait, il faut imaginer que quand les détenus arrivent aujourd'hui, dans des quartiers arrivants, des maisons d'arrêt, ils se retrouvent pendant 3 semaines sur des lieux qui sont plutôt surpeuplés, donc dans des cellules à 3 ou 4, avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, dans un univers où ils n'ont aucune activité qui est proposée parce qu'ils sont dans une dynamique de quartier arrivant. Parce qu'il faut laisser de la place, il faut qu'ils aient de la place dans les autres quartiers qui vont pouvoir les héberger pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, etc. Et donc, ils sont dans une forme de pas d'accompagnement et pas de réflexion finalement sur sinon ressurgir de la violence, quoi.
En tout cas, l'avis du CESE est très clair. Je le cite, la prison désocialise, déresponsabilise, crée de multiples ruptures ou exacerbe celles qui existaient déjà. Donc, c'est vrai que c'est assez éloquent. On pourra y revenir, mais j'aimerais maintenant accueillir une auditrice qui souhaite intervenir dans cette émission. Il s'agit de Flore. Flore, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, ben dès que j'ai entendu le sujet, en fait, j'étais prise entre l'envie de couper, parce que c'est vrai que ça réveille des souvenirs douloureux. J'ai un ami qui a fait 11 ans de prison et qui m'a raconté beaucoup de récits qui m'ont beaucoup choquée. Et entre autres, le fait que malheureusement, dans les prisons, il y a des gardiens de prison qui sont pas... Il n'y a pas que des bonnes personnes. Et entre autres, il a vu un de ses compagnons de prison, en fait, mourir sous les coups d'un gardien, et évidemment, la personne n'a pas été punie, a continué à travailler dans la même prison, et donc vous imaginez bien que être sous la dépendance de la violence de quelqu'un comme ça et de pas pouvoir se défendre, c'est absolument aberrant, d'autant plus que ce sont des gens en fait qui sont en prison parce qu'ils ont enfreint la loi, et la même loi n'est pas respectée en prison, donc je trouve que c'est vraiment un exemple déplorable. Et en plus, ça crée un stress énorme. Et c'est quelqu'un qui a pu essayer de se réinsérer, enfin qui a pu se réinsérer, mais qui en fait, avec les traumatismes liés à la prison, n'a pas tenu le coup en fait. Et il en parle encore en pleurant comme un petit enfant de 2 ans. Et c'est au point aussi que, par exemple, il ne supporte pas qu'on vienne chez lui sans le prévenir, parce que ça lui rappelle les intrusions violentes en fait des gardiens dans son espace intime sans prévenir, quoi.
Merci beaucoup pour ce témoignage très fort, Flore. On va revenir sur ce témoignage dans un instant avec mes invités, juste après cette pause musicale. Comme Flore, n'hésitez pas à intervenir. 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous écrire letemps de le dire@rcf.fr. Hypnosis, c'était le nouveau titre du trio new-yorkais Holy Hive.
Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
Depuis 9h ce matin, dans le temps de le dire sur RCF, nous parlons d'une question essentielle pour l'apaisement de notre société, celle de la réinsertion des personnes détenues. Mes invités, Antoine Dulin du CESE, qui vient de remettre un avis sur le sujet, François Besse de l'Observatoire international des prisons, et Clotilde Gilbert, directrice du Wake Up Café. J'aimerais, comme promis, revenir sur le témoignage très fort que nous avons entendu de Flore, qui nous rend compte de cette question de la violence au cœur même du système pénitentiaire, du système carcéral. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Alors, on peut revenir sur les surveillants pénitentiaires et sur leur rôle. Il y a beaucoup de personnes qui font bien leur travail, d'autres, effectivement, qui peuvent profiter de cette situation d'isolement pour commettre quelques méfaits.
Oui, alors, donc, Clotilde, moi, j'ai été aumônier de prison pendant un peu plus de 7 ans. Donc j'ai beaucoup circulé dans les coursives et dans les cellules des détenus. Et j'ai pu me rendre compte qu'il y a effectivement une grosse tension. D'abord, il y a une charge de travail des surveillants qui est phénoménale parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour accompagner et travailler auprès des détenus. Alors bien sûr, certains n'ont pas toujours des très bonnes intentions. Et le cas que notre auditrice a raconté est extrêmement grave. En même temps, j'ai aussi rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnel pénitentiaire qui étaient attachés à leur mission de surveillant avec de très bonnes intentions, très bienveillants et cherchant à faire de leur mieux pour cette mission de surveillant qui est vraiment pas facile.
L'OIP, l'Office international des prisons avait rendu l'Observatoire international des prisons, François Besse avait rendu, vous me le disiez hors micro, un rapport sur les violences dans le milieu carcéral. Qu'est-ce qui est ressorti de ce rapport?
Alors là, il s'agissait d'une enquête et donc d'un rapport sur les violences commises par des personnels sur les personnes détenues, puisque la violence, sinon, elle est beaucoup plus large, le terrain de la violence. Ce qui ressort essentiellement, c'est l'omerta. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est généralement étouffé. On a pu aussi voir que les personnes détenues victimes de violences ont énormément de mal à porter plainte, parfois même s'auto-censurent elles-mêmes par peur de représailles. Ce que je tiens à signaler effectivement, c'est que il faut surtout pas généraliser sur l'ensemble des personnels, mais il y a des personnels qui effectivement débordent. Très souvent d'ailleurs, nous on est alertés par des surveillants de prison qui alertent sur des agissements et des méfaits commis par des collègues, donc parce qu'ils ne le supportent pas et qu'on ne soive pas les choses comme ça. Mais globalement quand même, il y a un véritable phénomène d'omerta, c'est-à-dire on le tait, on n'en parle pas, et puis des inégalités dans la justice, c'est-à-dire que un détenu qui frappe un surveillant, il va être condamné systématiquement. Un surveillant qui frappe un détenu, c'est autre chose.
Et pour relier les choses au rapport du CESE, on pourrait dire, Antoine Dulin, que la prison ne doit pas être une zone de non-droit. On revient là-dessus et j'aimerais que vous puissiez nous parler de ces droits à réaffirmer pour favoriser davantage la réinsertion de ces personnes détenues.
Oui, la prison, elle doit pas être une zone de non-droit et une zone de violence. Et par rapport à votre dernière question, que des auditeurs peuvent avoir, c'est-à-dire, mais c'est bien que les gens aillent faire un séjour en prison d'une journée, d'un mois ou deux mois. On voit bien que cet univers est tellement violent, destructeur, qu'en fait, il n'est pas bénéfique pour la personne. On aurait des prisons différentes et dans des pays étrangers, il en existe, c'est-à-dire des endroits où effectivement, on peut travailler sur son passage à l'acte, travailler des questions de réinsertion et que ce temps d'enfermement soit un temps propice et utile. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les prisons en France. Juste en matière de violence, signaler quand même que le taux de suicide en prison est 7 fois supérieur par rapport dans la société. Et ça dit aussi quelque chose de cet univers carcéral. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, comment on arrive à faire pour que la prison, c'est une sanction qui prive de la liberté, du droit d'aller et de venir. Mais ça ne doit pas priver des droits fondamentaux. Les droits tout bêtes de pouvoir s'insérer dans la société. On a, dans la vie du CESE, rencontré des personnes qui disent « j'ai pas pu refaire ma carte d'identité, mon titre de séjour en prison, je suis enfermé pendant un certain temps, il y a des personnels qui viennent, etc. Je ne peux même pas refaire ça. Et donc, quand je sors de prison, sortir de prison sans carte d'identité, sans titre de séjour, c'est finalement retourner, comme disait Clotilde, malheureusement, dans une dynamique de récidive. Ou des personnes qui sont en prison, qui savent qu'ils ne vont pas avoir d'hébergement et donc vont se retrouver à la rue. Et donc c'est plutôt tout ce travail-là qu'il faut faire et qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, au-delà de priver des libertés de mouvement, la prison, elle prive aussi d'autres droits fondamentaux et c'est ça qu'on re-questionne fortement dans l'avis du Conseil économique, social et environnemental.
Alors, il y a des auditeurs qui interviennent, notamment Marie Duberry. Comment les personnes incarcérées peuvent se réinsérer dans la société avec des conditions de violence pareilles? Et puis, ce message d'André de Bruxelles, en Belgique, c'est pire qu'en France. Pourquoi ne pas s'inspirer des Pays-Bas? Alors, je ne sais pas si aux Pays-Bas, les choses sont mieux qu'ailleurs.
Ben, aux Pays-Bas, les choses sont mieux qu'ailleurs parce qu'il y a une politique pénale qui est un peu différente. C'est-à-dire, d'une part, sur la question des stupéfiants ou des délits routiers, par exemple, il n'y a pas de peine de prison. Donc, on est dans une dimension d'amende, on est dans des dimensions de travaux d'intérêt général, etc., de stages de citoyenneté, mais on ne met pas systématiquement des gens en prison. Il y a des gens en prison aujourd'hui en France qui sont en prison parce qu'ils ont commis plusieurs infractions routières. Mais finalement, on pourrait se dire que ce système-là, de délits routiers, au lieu de mettre ces personnes en prison, elles pourraient faire des stages pédagogiques, des travaux d'intérêt général qui est une vertu beaucoup plus réparatrice que la prison.
Et c'est aujourd'hui, peut-être moins dissuasif.
Justement, c'est pas dissuasif. On le voit bien, les chiffres de Clotilde tout à l'heure, 30% de récidive la première année, 60% 5 ans après. On voit bien que là, ça a quand même un coût énorme pour la société.
Clotilde Gilbert, François Besse, sur ces exemples européens qui fonctionnent peut-être mieux qu'en France.
Ben, je crois aussi que les prisons françaises, elles ont été construites architecturalement pour la punition, pour punir et pour exclure de la société.
Surveiller et punir, comme
voilà.
Disait Michel
Donc,
Foucault.
Pas du tout sur une vision de réinsertion qui est aujourd'hui un des rôles qui est de demander à la prison. Les prisons des pays du Nord sont aujourd'hui construites avec beaucoup plus d'espace lié à la réinsertion, où ils peuvent avoir des formations, ils peuvent avoir du travail en détention, ce qui est pas trop le cas dans les prisons françaises où il n'y a pas assez d'espace.
Alors justement, peut-être sur ces savoirs fondamentaux, ce travail, on va y revenir. Mais François Besse, vous vouliez tout de suite réagir.
Juste pour compléter, dans les pays d'Europe du Nord, notamment, il y a un système qui est assez répandu de ce qu'on appelle des prisons ouvertes. C'est-à-dire que on ne crée pas tout, on ne vient pas tout réenfermer dans la prison avec les personnes, mais les personnes ont en permanence du contact avec l'extérieur. Ça peut être de travailler dehors et puis de revenir à la prison, de suivre des formations. Mais il y a ce système-là qui permet de ne pas désocialiser, justement. C'est-à-dire, on continue à vivre avec la société.
Oui, mais ça existe aussi en France, non?
Et c'est important. C'est une part tout à fait minime.
Voilà.
Il y a un point que je voulais ajouter, parce que c'est une véritable problématique, en tout cas, que nous, on reçoit, et puis je crois que les statistiques le montrent, c'est que il y a également, dans les prisons, énormément de personnes malades, et notamment de malades psy. Et il faudrait vraiment interroger aussi l'incarcération de personnes malades.
Ouais. D'où l'amélioration de l'accès aux soins que vous proposez, hein, dans cet avis du CESE, Antoine Dulin.
Oui, tout à fait. Alors, juste sur la question des initiatives, sur des choses qui peuvent se passer en France, là, on a une initiative qui est absolument géniale, qui est le SAS des Baumettes, donc la prison de Marseille qui est très connue, qui est aujourd'hui partie en rénovation, et ils ont sanctifié un quartier, enfin, réservé un quartier à une structure pour l'aménagement à la sortie, ce qui permet effectivement d'avoir des gens qui vont être condamnés mais vont directement entrer dans ce SAS et donc une préparation à la sortie. Mais ce qu'on voit dans ce SAS, c'est qu'il y a des moyens doubles de l'administration pénitentiaire pour l'accompagnement et l'insertion des personnes, qu'il y a des travaux faits en partenariat avec les acteurs du droit commun, Pôle emploi, les missions locales, les acteurs associats, pour permettre qu'on entoure les personnes détenues et favorise leur réinsertion. Et puis, il y a un emplacement géographique. Très bien, les Baumettes, même si ils sont pas au cœur de la ville de Marseille, ils sont quand même pas très éloignés du centre-ville de Marseille. Et donc, la ministre s'est engagée à développer ces SAS. Il devrait y en avoir 23 jusqu'en 2022. Mais la vraie question que le monde pénitentiaire se pose, c'est est-ce que les SAS et le cahier des charges qui va être mis en place sur ces prochains SAS va être exactement le même que celui des Baumettes, ou est-ce qu'on va faire des SAS des Baumettes? Et si on fait des SAS des Baumettes, on risque de retourner dans une situation, comme disait Clotilde, où on ne met pas assez les moyens sur la question de la réinsertion.
Clotilde Gibert, alors là-dessus, et peut-être plus largement, une autre question, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les associations comme la vôtre font le travail que devrait faire l'administration pénitentiaire?
Alors juste avant, effectivement, sur les peines alternatives, je pense qu'on avance quand même vraiment beaucoup dans notre pays pour moins incarcérer les peines qui sont de moins d'un an. Et l'agence du TIGE qui vient d'être créée en est un exemple assez marquant qui va beaucoup, beaucoup développer. Il y a un travail énorme qui est fait pour développer le travail d'intérêt général. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que ça permettra aux personnes qui font des TIGE même de travailler et avec les compétences qu'elles ont. Donc ça a aussi un intérêt pour l'emploi, pour la suite. Et concernant votre question sur les associations, est-ce qu'on fait le travail qui devrait être fait par l'administration pénitentiaire? En fait, je me pose pas la question dans ce sens-là. Moi, j'ai créé Wake Up Café parce que j'ai fait un constat qu'il y avait un vrai besoin d'accompagnement à la sortie, à la fois un accompagnement individuel et puis qu'au-delà de tout ce qu'on peut apporter à la personne pour éviter qu'elle récidive d'un point de vue personnel, le fait d'avoir, et ça rejoint la question d'une des auditrices, le fait d'avoir des associations où il y a une vraie vie de communauté qui se crée, où il y a des relations sincères, chaleureuses qui se vivent avec une notion de communauté, me paraît très important. Et donc, le secteur privé peut travailler en même temps et collaborer avec l'État.
En bonne intelligence avec l'administration pénitentiaire?
Oui, nous on travaille en vrai partenariat avec les SPIP, donc de la région d'Île-de-France
donc,
et
SPIP,
de la région
service d'insertion et de probation, oui, hein, c'est ça?
Exactement, avec l'administration pénitentiaire, avec le ministère de la Justice. Et voilà, on cherche tous à aller dans le bon sens et je trouve que chacun ayant compris le rôle de chacun, les choses sont bonnes.
Il n'y a pas de frein? François Besse.
Alors, je prends la parole encore juste de 2 secondes. Il y a eu des freins au début, c'est-à-dire qu'au début, on a vu Wake Up Café comme une concurrence. Et en fait, nous, on s'est tout de suite positionné comme une proposition au service des services de probation et d'insertion pénitentiaire. Et ils ont du coup...
Mais parfois, comme à l'OIP, on dénonce certaines choses inacceptables. Il n'y a pas justement des freins dans ces cas-là qui sont mis par l'administration pénitentiaire?
C'est compliqué pour les associations, notamment les associations qui interviennent en prison en même temps. C'est fondamental, je pense, que la société civile rentre dans les prisons et porte son regard de l'extérieur dans la prison. Toujours dans la même idée, je pense, de faire en sorte que les personnes ne soient pas coupées du monde complètement pendant leur temps de détention. Donc ça, c'est important. C'est vrai qu'après, les difficultés sont de tout un tas d'ordres pour intervenir en détention. Nous, des retours qu'on a de la part des associations, c'est que tout est beaucoup plus compliqué. Les personnels pénitentiaires qui sont débordés avec notamment les situations de surpopulation vont toujours privilégier, on va dire, le basique et donc les associations, les interventions, ça va venir après. Tout est susceptible de porter atteinte à la sécurité, donc pour amener un peu de matériel, pour les gens qui font de la formation.
Oui.
Plus que contrôler même, voire refuser, donc c'est assez compliqué.
Alors pourtant c'est nécessaire ce travail associatif, notamment pour l'accès à la culture et au savoir. On va y revenir juste après cette nouvelle pause. N'hésitez pas à intervenir, à témoigner à l'antenne, à poser vos questions 04 72 38 20 23 letemsdeledire@rcf.fr.
Le temps de le dire revient dans un instant. Comme une planète, Anne Kerléo.
L'Australie brûle. Que nous disent ces incendies de l'état de la planète et que faire pour sauver la biodiversité? Dans Comme une planète, l'écologue Philippe Grandcola nous aide à y voir plus clair et nous donne des clés pour lutter pour la préservation de la diversité biologique.
Comme une planète, c'est ce vendredi à 17h sur RCF.
La boutique RCF vous propose le tout nouvel agenda RCF 2020. Conçu par RCF et Covadis, il organisera vos rendez-vous de décembre à décembre avec une double page par semaine. Il contient le calendrier des principales fêtes chrétiennes, le saint du jour, la liste des fréquences RCF et une carte du monde pour 10,50€ seulement. Pour plus de renseignements et commander votre agenda RCF 2020, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10. Prix hors livraison.
Vous écoutez la rediffusion de l'émission « Le temps de le dire ». Merci de ne pas appeler le standard.
On oublie trop souvent que les gens qui rentrent en prison en sortent, c'est ce que rappelle à juste titre en conclusion l'avis du CESE sur la réinsertion des personnes détenues, avis coordonné par Antoine Dulin qui est avec nous jusqu'à 10h, avec lui également François Besse de l'OIP et Clotilde Gilbert, fondatrice et directrice du Wake Up Café qui accompagne des personnes détenues de leur lieu d'incarcération vers une réinsertion durable. J'aimerais évoquer la question du travail en prison, on le sait c'est un vaste sujet, l'avis du CESE dit ceci, je cite, le travail en prison est peu qualifié et porte sur de simples tâches d'exécution. Il est actuellement utilisé comme un outil de paix sociale et pas comme un vecteur de l'insertion professionnelle. Après la détention, Antoine Dulin, le constat est sévère. Mais réaliste.
C'est ça, j'espère. Mais en tout cas, il faut. On a beaucoup de fantasmes sur la question du travail en prison. D'une part, il faut se dire qu'il n'y a aujourd'hui que 28% des personnes qui sont en prison qui ont accès à un travail. Ces chiffres sont en baisse. Il y a encore 10 ans, on était à 40, 50% de personnes détenues qui pouvaient travailler en prison. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas pour diverses raisons. Il y a à la fois le fait qu'il y a des entreprises qui se sont désengagés du travail pénitentiaire par à la fois des difficultés de pouvoir rentrer en prison, par aussi des questions de connaissance de la spécificité du travail en prison, et aussi par une concurrence, parce qu'il faut savoir que le travail en prison est un travail qui est très peu coûteux. Les gens sont payés généralement à la pièce et entre 30 et 40% du SMIC, donc plutôt très concurrentiel vis-à-vis du marché du travail français. Mais là, aujourd'hui, il peut y avoir des concurrences venues d'autres pays, même si on se rend compte, et pour en avoir discuté avec un certain nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui engagées en prison, que globalement, on est plutôt aujourd'hui dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire travailler sur ces pièces en prison que de les envoyer en Tunisie, etc. Parce qu'on peut avoir un contrôle et un regard qualité en proximité quand c'est fait dans des établissements pénitentiaires français. Mais au-delà de ça, ce travail, il est peu qualifié. Parce que je pense que les auditeurs s'en rendent pas compte. Pour beaucoup, c'est quoi le travail en prison ? C'est de regarder si une pièce a été bien faite et donc de passer un coup de pinceau dessus et de vérifier si ça c'est bien. Ça peut être, je l'ai vu au centre de détention de Lens, c'est pays des betteraves, donc en Picardie. Il y a des paquets de sucre qui sont tout éventrés, etc. Et ben il faut les ouvrir pour les mettre dans un énorme ballot de sucre de plusieurs tonnes. Et voilà. Et c'est ça qu'on demande aux détenus. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que les détenus, d'une part, et ce qui est vrai, les chiffres le montrent, sont des personnes qui sont pas ou peu qualifiées. Il y a à peu près 40% ou 50% des détenus qui, aujourd'hui, n'ont pas de niveau de qualification. Donc, on se dit, voilà, un travail simple, etc. Mais ce travail, il est absolument pas valorisant. Et puis, il est pas du tout valorisable à l'extérieur. C'est-à-dire, quand une personne détenue va sortir en disant, moi, j'ai travaillé en prison en faisant ces ballots de sucre, ce n'est absolument pas valorisant. Donc, effectivement, on utilise le travail en prison comme un outil de paix sociale. Il y a une situation de classement et de déclassement qui permet, effectivement, c'est un moyen pour avoir des remises de peine. Si on est plutôt un comportement plutôt sain en prison, et ben de pouvoir accéder, il y a des listes d'attente, donc de pouvoir accéder peu à peu à ce travail en prison qui permet aussi une rémunération, parce qu'il faut savoir que le coût de la vie en prison c'est 200 euros pour les détenus. Il faut s'imaginer
pour améliorer leur ordinaire.
Ouais, voilà, pour améliorer leur ordinaire.
Alors sur cette question du travail, François Besse, j'aimerais vous entendre comment il peut être davantage, pour reprendre les termes du CESE, un vecteur d'insertion professionnelle après la détention.
Mais il faudrait déjà montrer, que ça serve d'exemple, c'est-à-dire pour les personnes, que le travail, ça peut être quelque chose qui existe dans la société. À l'heure actuelle, nous, des témoignages qu'on a des personnes qui travaillent, elles travaillent par nécessité. Beaucoup n'arrivent pas d'ailleurs à travailler, elles travaillent par nécessité, mais avec derrière un sentiment vraiment de ne pas avoir de droit. Puisque le droit du travail n'existe pas en prison, les motifs de classement, déclassement sont parfois tout à fait fumeux. C'est compliqué. Donc ce non-respect du droit et ce sentiment quand la personne sort, que finalement on s'est servi d'elle en la sous-payant, en utilisant le paiement à la pièce, alors que c'est totalement illégal normalement en France, crée pas un sentiment qui va donner envie aux gens de rejoindre le monde du travail quand ils vont sortir.
Vous le constatez dans votre association, Clotilde Gilbert, des détenus, des anciens détenus qui parlent de ce travail en prison et qui finalement est peu valorisable après la détention ?
Oui, alors il est effectivement peu valorisable. Après, moi personnellement, c'est vrai que je leur dis, vous avez eu la chance de travailler par rapport au nombre de personnes qui ont cette chance-là de travailler en détention. Donc vous avez été parmi les privilégiés. Donc j'essaye toujours de relativiser un peu leur critique face au travail. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est une vraie volonté du gouvernement de sensibiliser les entreprises et les chefs d'entreprise à redonner du travail en détention. Donc, avec les entreprises qui sont engagées aux côtés de Wake Up Café, on y travaille. Donc, je sais qu'il y a déjà des centres de découpage de fruits et légumes qui vont être mis en place avec le groupe Louis Delaize, qui vont être faits dans le Nord. On est en train de travailler aussi à des travaux justement de numérisation. Parce que ça peut vraiment être délocalisé, pas être fait à l'extérieur. Et du coup, les personnes seraient formées, enfin vont être formées en détention et auront dehors le même travail. Donc, il y a un vrai sens et donc il y a un accompagnement et un suivi dedans, dehors, qui me paraît, moi, très important. Donc, les choses aussi avancent dans ce sens-là.
François Gass.
Oui, il faut noter qu'il y a des choses positives quand même qui peuvent exister. Il y a quelques structures ou entreprises qui proposent du travail aux personnes détenues avec des salaires équivalents à ceux de l'extérieur, avec un vrai contrat de travail. Donc c'est tout à fait possible, même si c'est pas du tout la pratique. Ça se fait dans certains endroits. Ce qui devrait être valorisé, je pense aussi, c'est qu'on fait très souvent appel quand il y a, par exemple, des personnes détenues qui ont besoin d'aide. Je pense aux personnes dépendantes, etc. En général, on fait appel, même si normalement, il devrait pouvoir y avoir des intervenants extérieurs qui viennent aider à la vie quotidienne. Dans la réalité, la plupart du temps, il fait appel à des co-détenus sur la base du volontariat qui, gratuitement, vont aider la personne dépendante, etc. Là encore, il pourrait y avoir des formations et quelque chose qui devient qualifiant et qui pourrait permettre à la personne, une fois dehors, de trouver un emploi équivalent. Enfin, il y a tout un tas de choses à valoriser qui ne le sont pas du tout à l'heure actuelle.
Et vous proposez différentes choses dans cet avis du CESE, Antoine Dulin, notamment, alors je sais pas si on peut lier cette proposition-là à ce qui vient d'être dit, un comité, si j'ai bien compris, d'insertion socio-professionnelle qui sera créé au sein des prisons.
Dans chaque établissement, oui, ce qui est assez frappant, c'est que cette question de la réinsertion, c'est une mission qui est à l'administration pénitentiaire depuis la loi de 2009. Elle est inscrite dans la loi, tout comme la mission de sécurité et d'enfermement des personnes détenues. Et on n'a pas de commission dans chaque établissement qui réunit les différents partenaires, qui permet de se voir une fois par mois pour se dire c'est quoi le projet, comment on suit les personnes qui nous sont entourées, etc. Il y a une commission qui existe, qui est la CPU, qui est une commission pluridisciplinaire. Enfin, voilà, où, en fait, c'est chaque semaine, le chef d'établissement avec les quelques personnes du SPIP vont décider de ce système de classement et de déclassement sans associer les partenaires, que ce soit les partenaires associatifs, Pôle emploi, etc., les missions locales, à ce travail-là. Sur la question du travail en prison, effectivement, comme dit Clotilde, il y a des choses qui avancent et c'est très bien. Il y a notamment la question de l'entrée de tous les acteurs de l'insertion par l'activité économique en prison. Elle était attendue. Aujourd'hui, il y a 7 expérimentations dans des établissements pénitentiaires qui permettent de développer des chantiers d'insertion à l'intérieur de la prison. Et puis moi, il y a une question de société, c'est est-ce que, comme on voit, certains acteurs sont prêts, enfin certains consommateurs aujourd'hui sont prêts à acheter des produits de commerce équitable parce qu'ils sont prêts en respectant les paysans et le prix du producteur. On a aujourd'hui des entreprises qui nous disent je ne valorise surtout pas et je ne dis pas que je fais travailler des personnes détenues. Et ben moi, je pense que inversement, on pourrait imaginer que des consommateurs soient fiers d'acheter des bics parce qu'ils travaillent en prison ou d'autres acteurs parce que le travail a été fait par des personnes détenues et a permis leur réinsertion.
Oui, mais il faudrait pour ça que les chefs d'entreprise qui s'engagent justement à donner du travail en détention soient valorisés et pas montrés du doigt comme des exploiteurs.
Allez, j'accueille maintenant Valérie qui nous appelle de Lyon. Valérie, vous êtes avec nous ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend. Bonjour.
Bonjour. Voilà, je voulais témoigner. J'accompagne un jeune qui était à la rue, qui a été incarcéré à Corbat, qui aujourd'hui est en semi-liberté. Il a eu aucun accompagnement pour sa sortie. C'est effectivement, je vous le confirme, quelque chose de très violent. On lui a dit, tu sors demain. Il s'est retrouvé avec tous ses sacs dehors. Et je l'ai accompagné donc à la semi-liberté. Il a trouvé du travail et là, on lui a dit, toujours de façon très brutale, eh bien, à partir du 9 décembre, t'es dehors, t'es libre. Il a un travail, il a un CDI et il va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée puisqu'il va avoir du travail, mais il va être à la rue à nouveau.
Alors, ça pose la question de l'hébergement. des personnes qui sortent de détention. Qu'est-ce que le CESE propose pour régler ce problème, ou en tout cas essayer de trouver des pistes de solution à ce problème évoqué à l'instant par notre auditrice Valérie?
Eh bien, Valérie fait un constat que on partage au CESE. Il y a 28% des personnes qui sortent de détention qui n'ont pas un hébergement propre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit on retourne dans sa famille ou en hébergement tiers. Hein. Hier, on était avec un ancien détenu. Il a aujourd'hui 30-35 ans. C'est sa maman qui continue à l'accueillir chez lui avec le bracelet électronique, avec tout ce que ça dit aussi d'une gestion du bracelet électronique où il faut être rentré à 8h du soir pour pas que ça sonne, et avec toute la dimension de mince, quand il y a une panne de RER, etc. Donc il y a une vraie problématique d'hébergement et de logement. Elle est connue en France, hein, c'est-à-dire que encore plus, y compris notamment sur Lyon ou sur la région Île-de-France, il y a des gens qui dorment dans la rue le soir, et effectivement des personnes qui sont sans hébergement et qui sortent de prison sont parmi ces personnes-là, c'est un choc supplémentaire, comme l'a bien expliqué Valérie. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il y a deux choses. Il y a d'une part, sur toute la question des courtes peines, comment on est capable dans notre société de maintenir le logement des personnes qui sont détenues? Beaucoup de détenus vont dire, moi je suis incarcéré pendant 2-3 mois, je vais devoir résilier mon bail, et après j'aurai pas les moyens de re-rentrer dans mon bail, le bail social, etc. Donc il y a tout un travail à faire pour permettre le maintien des détenus et le maintien du logement pendant la période de détention. Et puis de l'autre côté, il y a tout un travail à faire sur ce qu'on appelle des places de transition gérées au niveau territorial pour permettre effectivement à des personnes sortant de prison, je ne sais pas si c'est le terme prioritaire, en tout cas d'être dans une dimension de pouvoir être véritablement accompagné dans cette recherche de logement et d'hébergement, mais qui est une problématique qui ne concerne pas seulement les personnes détenues en France.
Clotilde Gilbert.
Je voulais juste dire à Valérie déjà qu'elle peut essayer de se mettre en contact avec Wake Up Café Lyon. On n'a pas de solution miracle, mais on travaille aussi avec des partenaires pour des logements, et donc on pourra essayer de faire quelque chose pour ce jeune.
François Besse, sur cette question de l'hébergement, et ça pose aussi la question des sorties sèches, les personnes qui sortent parce qu'elles ont fini leur temps d'incarcération, mais pour autant elles n'ont pas forcément les moyens de rebondir dans la société.
Tout à fait, mais là il y a peut-être aussi une histoire de répartition des moyens, c'est-à-dire que les associations qui font de l'hébergement, qui font de l'accueil de sortants de prison, c'est un premier palier finalement par le biais de ce type de structure, ont besoin de moyens, et peut-être qu'il faudrait faire glisser les moyens de la construction de nouvelles prisons, etc., vers ce type de structure d'insertion pour les personnes, d'hébergement, etc.
Allez, on prendra un autre auditeur dans quelques minutes après cette nouvelle pause musicale. Restez avec nous, on fait le tour d'horizon de cette question sensible mais essentielle de la réinsertion des personnes détenues jusqu'à 10h.
He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. Did you ever hear a robin weep when leaves begin to die?
That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. The silence of a fallen star lights up a purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry.
I'm so lonesome I could cry. C'était Johnny Cash sur RCF.
Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCF.
Les prisons ne doivent pas devenir la honte de la République, car si elles sont des lieux de privation de liberté qui écartent pendant un temps des personnes condamnées ou en attente de condamnation, elles doivent davantage être des lieux de réinsertion. C'est la conviction du CESE qui vient de rendre un avis sur le sujet dont nous rend compte ce matin Antoine Dulin. Avec nous également François Besse de l'OIP et Clotilde Gilbert, fondatrice et directrice du Wake Up Café. Jacques nous appelle du côté de Lyon. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Vous êtes le bienvenu, nous vous écoutons.
Voilà, je vous remercie pour cette émission parce que c'est important, je crois, de parler des prisons. Voilà, je suis actuellement retraité, mais j'ai beaucoup travaillé avec des personnes sortant de prison dans le cadre de la réinsertion, de même que de visites en prison, et puis au niveau aussi réfection sur un travail que j'ai fait sur l'alternative à l'incarcération. Alors j'entends que des choses changent et j'en suis vraiment content parce que je crois qu'il y avait beaucoup à faire à cette époque-là. Moi je pars quand même d'une quinzaine ou vingtaine d'années. Sur Lyon, j'ai eu la chance de travailler avec des juges d'application des peines qui ont beaucoup porté la réflexion sur l'alternative. Et on sait que dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de récidives. On parle beaucoup de la récidive, mais on sait qu'il y a beaucoup moins de récidives. Voilà, donc c'est un point important, je pense. Et puis, ce que j'aimerais exprimer aussi, parce que moi, je l'ai vécu concrètement, c'est que si beaucoup de nos concitoyens avaient l'occasion d'aller en prison, je crois que des propos, des changements seraient importants, enfin, de leur part. Alors, c'est vrai que moi, j'avais visité la prison Saint-Paul, qui était quand même assez désastreuse. Mais même les bâtiments modernes ne sont pas forcément aussi, aussi luxueux qu'on peut le penser. Voilà, mais je crois que beaucoup de citoyens pourraient changer d'attitude et qu'il y aurait peut-être une pression peut-être plus importante sur nos politiques pour que des choses changent. Ça, je crois que c'est important. Et juste un dernier point, je ne crois pas que vous l'ayez évoqué, mais j'ai aussi travaillé sur la médiation avec victimes et agresseurs. Oui. Et moi, j'ai vécu des choses extraordinaires en voyant un jeune qu'on a accompagné, qui avait agressé une dame en lui volant son sac, qu'elle était tombée, s'était fait mal, etc. Et le juge, avec en accord avec la victime qui avait demandé, n'a pas été en prison, mais a fait un travail d'intérêt général. Et il a refait une partie de son, la personne a refait une partie de l'appartement de la dame. Et entre eux, s'est créé une relation et qui a changé complètement les choses, aussi bien pour la personne qui est victime et aussi bien pour la personne qui avait agressé, qui a compris que ce qu'il avait fait. Et voilà, je trouve ça un exemple qui est assez extraordinaire.
Merci beaucoup, voilà. Jacques, d'être intervenu en direct ce matin sur RCF. Alors, beaucoup de choses dans ce que vient de dire Jacques. Développer les peines alternatives. Il faut aller en prison pour se rendre compte de l'état du système carcéral. Et puis, il nous parlait, alors, je pense que ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle la justice réparatrice. C'est ça, ce travail de médiation, Antoine Dulin. Ça peut se développer. Je sais que c'est très, très, très présent au Canada, notamment.
Oui, oui, bah, ce travail-là, comme dit Jacques, et merci vraiment pour votre témoignage parce qu'il montre concrètement qu'il y a d'autres solutions possibles. Oui, la justice réparative, elle permet effectivement par un investissement et une relation entre la personne victime et la personne qui a été sanctionnée et qui a commis l'acte, un travail de réparation, et un travail de réparation qui est favorable pour les deux, à la fois pour la victime de tenter de se reconstruire au regard de l'acte fait, et puis pour la personne condamné ou en tout cas qui a commis l'acte, de pouvoir être dans un processus qu'on appelle la désistance. C'est la sortie de la délinquance, c'est-à-dire qui à la fois est une dimension de déclic personnel qui concerne des facteurs cognitifs, psychologiques, etc., qui vont faire qu'à un moment donné, je vais sortir de ce processus-là, prendre conscience de la réalité de mon acte, hein, qui est, c'est clair, sanctionnable et sanctionné sans doute, et aussi des facteurs économiques, environnementaux, sociaux. Beaucoup de détenus nous ont dit, si on me donnait les moyens, les conditions, si on me permettait par exemple de voir ma femme, ma famille, mes enfants, si on me permettait de garder un réseau, si on me permettait de pouvoir travailler en prison, d'avoir une formation qui est qualifiante, de pouvoir non pas être responsabilisé comme vous avez dit, mais juste prendre ma part, être un acteur dans l'univers carcéral. Aujourd'hui, les personnes détenues dans l'univers carcéral, c'est des numéros à qui on dit à un moment donné, vous pouvez sortir de prison, etc. Et le témoignage de Flore au début, il est poignant. Oui, il y a encore des gens, quand ils sont sortis de prison, même 10 ans après, si on ne prévient pas qu'on vient chez eux, eh ben, ils ont l'impression de retourner dans l'univers carcéral, parce que c'est ça, l'univers carcéral. C'est, à un moment donné, un surveillant qui va ouvrir la porte de ta cellule et qui va te demander quelque chose, et alors que tu n'avais pas prévu de faire ça, etc. Mmh. Et ça, c'est continuel, avec des dimensions sécuritaires très fortes. Et alors, donc, là-dessus, il y a un vrai travail à faire, notamment pour développer ces alternatives.
Alors, justement, peut-être, j'aimerais vous entendre là-dessus, François Besse et Clotilde Gilbert, sur ces peines alternatives au sens général, peut-être sur le cas particulier de la justice dite réparatrice, est-ce que c'est la solution à tout, sachant que effectivement notre auditeur a parlé de faits de vol, il me semble, mais dans les cas les plus graves, ça semble quand même difficile à mettre en place, non ?
Ça marche aussi très bien, pardon.
Clotilde Gilbert.
Ça marche, cette justice réparatrice, elle marche aussi très bien pour des cas de criminels. Qui peuvent rencontrer les familles des victimes et qui peuvent découvrir le mal qu'elles ont produit. Et les familles qui ont pu être victimes d'actes de criminels, découvrir aussi que c'est pas toute la société qui est dangereuse, mais c'est une personne qui, à un moment donné, leur a fait du mal. Et en fait, ça répare beaucoup de choses.
Il faut effectivement dire que la prison, on peut en discuter, est censé justement faire prendre conscience aux délinquants, aux criminels, de son acte. Et alors, c'est une voix un petit peu peut-être discordante qui se fait entendre à travers ce mail de Romain. Pourquoi les gens arrivent en prison, parfois pour des fautes très graves, parfois non, mais la plupart du temps, il s'agit quand même d'une situation exceptionnelle. Tout le monde n'est pas amené à passer en prison au cours de sa vie. Alors, le fait que les conditions soient dures ne me choque pas. Je trouve même que cela est nécessaire.
Il faut peut-être préciser aussi qu'il y a tout un tas de gens qui pensaient que jamais ils n'iraient en prison parce que les actes, on va dire, ne relevaient pas d'une sorte de délinquance habituelle. On parlait des délits routiers tout à l'heure. Il y a tout un tas de gens qui se retrouvent en prison alors que vraiment ils ne pensaient pas, simplement avec des récidives de conduite en état alcoolisé, enfin tout un tas de choses, et qui découvrent la prison à travers ça. Donc finalement, quelque part, nul n'est à l'abri à l'heure actuelle de se retrouver en prison. Ça, il faut quand même y réfléchir, je pense. Sur les... Toutes les peines qui ont du sens, en fait, sont à privilégier. La médiation, ça fait partie du contenu de la peine, mais ça a énormément de sens, puisque ça fait rencontrer, réfléchir, ça ne désocialise pas, mais bien au contraire, ça fait réfléchir la personne qui a commis les actes, bien évidemment.
Oui, c'est ça.
Et toutes les peines qui ont un sens...
La sanction n'est pas absente. Hein.
Voilà.
La peine n'est pas absente.
Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la peine de prison, elle n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'elle ne produit rien de bon. Au contraire, elle risque plutôt de ou bousiller les gens ou les rendre plus haineux et donc plus dangereux. Donc
et puis juste pour répondre à Romain, juste le fait d'être privé de liberté est déjà énorme. Et je pense qu'on ne peut s'en rendre compte qu'effectivement, en allant en prison et en découvrant le fait d'être limité dans tout, on dépend complètement des autres quand on est incarcéré. Du surveillant qui va vous ouvrir pour aller prendre votre douche, du surveillant qui va vous ouvrir ou pas pour aller à une activité, du surveillant qui va vous ouvrir ou pas pour pouvoir aller à un parloir avec votre famille. On est démuni complètement, on est complètement à la merci de ce que veut bien ou veut pas les surveillants.
D'où l'urgence de réaffirmer, c'est ce que fait le CESE dans son avis, réaffirmer les droits sociaux, les droits de citoyenneté aussi des personnes détenues.
Oui, nous on a appelé ça la question du pouvoir d'agir, on en parle je crois beaucoup sur ces antennes de RCF, mais c'est la question de Comment on redonne la capacité d'agir aux personnes détenues, même s'ils sont en prison? Je voudrais rebondir sur la question de Romain. On n'a jamais dit que la prison devait être le Club Med, mais aujourd'hui c'est pire que le Club Med. Enfin, c'est pas le Club Med, pardon. C'est pas le Club Med. Les conditions en prison, elles sont dures. Voilà, mais c'est plus que dur, elles sont humiliantes et elles déresponsabilisent. Que la prison, on soit dans des cellules, voilà, de 9 mètres carrés et que on vive un temps d'enfermement, il n'y a pas une remise en cause de ça. Le discours du CESE n'est pas abolitionniste et ne doit pas dire on doit supprimer les prisons. Elles sont utiles pour des personnes qui ont commis des actes dangereux et dont on doit se servir de ces lieux pour protéger la société. Il faut juste quand même se dire que globalement, au regard de toutes les auditions qu'on a eues, il y a quoi, 15% des personnes qui sont aujourd'hui en détention qui ont vraiment des profils dangereux, 15%, donc c'est pas la majorité des personnes qui sont aujourd'hui en détention. Et oui, je pense que ce qu'il faut qu'on travaille et que l'administration pénitentiaire doit travailler, j'espère que la prise de conscience va avoir lieu, c'est cette question de pouvoir d'agir des personnes en détention. Oui, il y a eu des choses qui ont été faites sur le droit de vote pour les européennes, on espère que sur les élections locales les gens vont pouvoir tous aller voter.
Voilà, on arrive au terme de cette émission, on aurait pu encore prolonger d'une heure voire de deux heures, tellement vos propos étaient passionnants et essentiels. Encore une fois, c'est un enjeu de société, cette question de la réinsertion des personnes détenues. On peut lire l'avis du CESE sur le site, hein, il est consultable, ouais, téléchargeable,
www.lecese.fr,
et puis on peut aller aussi voir du côté du site du Wake Up Café, hein, avec pas mal de renseignements,
www.wakeupcafe.org,
et l'OIP également a un site qu'on peut consulter, bien évidemment. Voilà, on regarde sur Google. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, merci à Pierre-Henri Paget d'avoir réalisé cette émission.